Bonjour à tous. Je vais essayer de me faire bien entendre, bien que je sois sous le coup de possibles extinctions de voix. Mais on va tâcher, grâce au micro, de se faire entendre. J'espère que j'ai prévu mon salut, hein, au cas où. Voilà. Donc, je pense que ça devrait bien aller si je ne force pas trop la voix. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, c'est la dernière séance de ce parcours. Et comme je l'avais annoncé, donc, je voudrais traiter le dernier volet de cette partie sur les dimensions du salut. Donc, j'ai traité du salut dans l'existence sociale. Nous avons vu comment la question se pose à propos de la relation de l'homme et de la femme. Et il reste maintenant à aborder ce qui correspond au troisième élément de la formule de saint Paul, ni juif ni grec. Et je saisis l'occasion de cette formule, il n'y a plus ni juif ni grec. Je saisis cette occasion pour aborder un sujet très, très important qui est celui justement du salut. Du salut des autres, c'est-à-dire comment penser le rapport entre la confession de foi chrétienne qui témoigne d'un seul sauveur et la destinée des autres, la destinée de tout être humain, y compris donc de ceux qui ne croient pas au Christ ou qui n'ont jamais entendu parler du Christ. Voilà donc la question qu'il nous faut maintenant aborder. Alors pour ce faire, je vais procéder en deux temps. Tout d'abord, un rappel qui sera rapide pour dire comment s'est posée la question d'hier à aujourd'hui et quelles sont les principales évolutions des problématiques contemporaines sur le sujet de l'unique et de l'universel. Et dans un deuxième temps, alors je proposerai une réflexion de portée plus systématique en quelque sorte, l'opération du salut, c'est-à-dire comment le salut est-il à l'œuvre, que veut dire, au fond, l'annonce chrétienne du salut quand on réfléchit sur les chrétiens et les autres. Voilà l'objet de cette seconde partie. Alors, d'hier à aujourd'hui, évolution des problématiques sur cette question de la relation entre la confession de foi en Jésus-Christ comme unique sauveur et la destinée de tous, la destinée de tous les hommes, l'unique et l'universel. Je vais très vite parce que pour une part je m'appuie sur des choses que nous avons vues, mais j'apporterai quelques compléments. Premier moment, si vous voulez, à partir du Nouveau Testament jusqu'à Augustin. Les pères de l'Église avant Augustin. Bien, dans cette période, deuxième siècle, troisième siècle, début quatrième siècle, le lien entre la confession de foi de Jésus-Christ comme unique sauveur et la prise en compte de la destinée des autres, ce lien se fait principalement par la doctrine des semences du Verbe. En général, on associe cette doctrine au nom d'un père de l'Église du IIe siècle, l'apologiste Saint Justin. Le problème, au fond, peut être résumé de façon assez simple. Au IIe siècle, les païens fondent au christianisme l'objection suivante. Le christianisme, c'est une religion très récente. Alors, qu'est-ce que vous faites de tous ceux qui ont vécu dans les siècles précédant la venue du Christ? Vous ne pouvez pas connaître le Christ. Alors, ça veut dire qu'ils ne sont pas sauvés. Et Saint Justin leur répond, certes, le Christ est venu récemment, il y a un siècle, pour Justin, mais ceux et celles qui, dans les siècles précédents, ont vécu avec justice, ont atteint une certaine forme de sainteté, eh bien, ceux-là étaient déjà comme à leur insu, en communion avec le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu était en quelque sorte disséminé, répandu dans l'univers des nations, avant même la venue du Christ. C'est la thèse des semences du Verbe, semences de vérité, thèse qui sera reprise d'ailleurs par le Concile Vatican II. Donc c'était une manière de résoudre cette question, l'unique et l'universel. Certes, Jésus-Christ est l'unique sauveur, mais il y a des hommes dans les siècles anciens qui ont pu être sauvés, alors même qu'ils ne connaissaient pas le Christ. Ils ont pu être sauvés dans la mesure où ils accueillaient en eux-mêmes des semences de vérité, des semences de justice. Voilà. Donc c'est une thèse qui sera reprise par d'autres pères de l'Église que saint Justin. Alors, deuxième moment dans l'évolution historique, Augustin, là je vais vite parce que j'en ai parlé assez longuement de saint Augustin il y a quelques semaines. Je rappelle que pour Augustin, ce qui est évidemment fondamental, c'est la foi. Quand il réfléchit sur le salut, saint Augustin fait toujours intervenir la question de la foi, puisqu'il se rappelle l'enseignement de saint Paul, nous sommes rendus justes, nous sommes justifiés, moyennant la foi. Mais on constate chez Augustin une certaine évolution. Dans certains textes, Augustin n'hésitait pas à dire, jusqu'à une certaine époque, que précisément des hommes des siècles anciens, bien avant la venue du Christ, avaient pu connaître une certaine forme de foi et avaient pu être sauvés, précisément parce qu'ils vivaient dans une certaine justice, dans une certaine sainteté. Je cite par exemple une phrase de saint Augustin, « La volonté divine de sauver les hommes n'a jamais fait défaut au salut des mortels justes et pieux. » Donc, il y a eu déjà dans les siècles précédant la venue du Christ des hommes justes et pieux qui étaient habités par une certaine forme de foi, alors même qu'ils ne connaissaient pas le Christ, évidemment, et qui ont donc été atteints par le salut. Mais il y a eu un certain tournant dans la vie d'Augustin du fait de la controverse avec Pélage, dont je vous ai parlé longuement. Dans la mesure où Pélage insistait fortement sur le libre arbitre, au point de laisser entendre que l'être humain pouvait se sauver par ses propres forces, donc ça avait pour implication que partout, dans toutes les nations, des êtres humains pouvaient, par eux-mêmes, en quelque sorte, atteindre le salut. Dans cette mesure, Augustin s'est trouvé conduit à durcir un peu ses positions. De par son opposition à Pélage, saint Augustin en est venu à atténuer sa pensée sur le salut des autres. Et on en a par exemple le témoignage dans l'un des derniers écrits d'Augustin qui s'appelle les Révisions, Retractationes, où saint Augustin revient sur son œuvre antérieure et il apporte quelques précisions. Et dans un passage de cette œuvre, les Révisions, Augustin dit ceci, dans l'un de mes textes antérieurs, c'est-à-dire celui que j'ai cité tout à l'heure, la volonté divine n'a jamais fait défaut au salut des mortels, eh bien, à ce propos, dit Augustin, je n'ai pas voulu dire qu'un homme était digne du salut par ses propres mérites, mais, comme dit l'apôtre, ce n'est pas d'après les œuvres, mais d'après l'appel qu'il a été dit, l'aîné servira le cadet. Une allusion au chapitre 9 de l'Épître aux Romains. On voit bien, Augustin éprouve le besoin de revenir sur ce qu'il avait dit 20 ans plus tôt, parce que la controverse avec Pélage l'accule, en quelque sorte, à souligner davantage que le nombre des sauvés en dehors de l'Église n'est peut-être pas aussi important qu'il avait pu le laisser entendre. Donc il y a certainement une évolution dans l'œuvre d'Augustin, dans l'itinéraire d'Augustin. une évolution qui, je pense, tient dans une large mesure à la nécessité où il était de s'opposer à Pélage. Mais, comme je l'ai dit aussi il y a quelques semaines, la position qu'Augustin avait atteinte vers la fin de sa vie a elle-même été jugée excessive par certains de ses contemporains. Et surtout, après sa mort, les moines de Provence, je l'avais expliqué, se sont un peu rebellés contre Augustin en disant, certes, Pélage a tort de laisser entendre que tous les hommes peuvent se sauver par leur propre force, mais ils disent à Augustin, toi, inversement, tu vas trop loin dans l'autre sens, en laissant entendre que tout dépend de la grâce de Dieu. Tu veux tellement insister sur la primauté de la grâce de Dieu que tu risques de restreindre indûment le nombre des sauvés. Vous vous rappelez, j'avais expliqué ça à propos des moines de Provence en réaction contre la dernière évolution, si vous voulez, de la pensée d'Augustin. Et j'avais montré qu'il y a même quelqu'un, Prosper d'Aquitaine, vers le milieu du 5e siècle, qui était intervenu pour proposer une solution au débat. Comme je l'avais montré, il s'était appuyé sur un passage de la première épître à Timothée où saint Paul dit « Le sauveur de tous les hommes, spécialement des croyants ». J'avais expliqué l'interprétation que Prosper d'Aquitaine donnait de ce verset. Le sauveur de tous les hommes. Voilà. Paul dit que le Christ est le sauveur de tous les hommes. Donc on ne peut pas restreindre indûment, a priori, le nombre de ceux et celles qui sont atteints par le salut. Et en même temps, saint Paul disait, le sauveur de tous les hommes, spécialement des croyants. C'est-à-dire qu'il y a en même temps une part de l'humanité qui a été directement atteinte par l'annonce de l'Évangile. Voilà. La manière dont Prosper d'Aquitaine essayait de trancher le débat. La controverse qui a été ainsi soulevée par Pélage et par Augustin dans sa réponse à Pélage s'est poursuivie dans les siècles suivants, tout au long du Moyen-Âge et à l'époque moderne. Et je dirais même que cette controverse s'est durcie au XVIe siècle et au XVIIe siècle. D'abord au XVIe siècle à cause de la Réforme, parce que la Réforme protestante, d'une certaine façon, a remis l'accent de manière très très vive sur la primauté de la grâce, sur la nécessité de la grâce. Et donc, ça n'allait pas directement dans le sens d'une ouverture au salut du plus grand nombre. Et puis, surtout, la controverse de jadis entre Augustin et Pélage s'est trouvée, remise, alors vraiment au premier plan, et même aggravée, accentuée, au XVIIe siècle avec le jansénisme. On pourrait dire que le jansénisme, c'est en quelque sorte l'aboutissement le plus radical de ce qu'on pouvait entendre à travers certains textes d'Augustin dans la dernière partie de sa vie. Attention, je ne dis pas du tout que Augustin était janséniste avant la lettre, pas du tout. Je pense que Jansénius a durci de façon excessive la pensée d'Augustin. Mais justement, Jansénius s'appuyait de façon unilatérale sur certains textes de la dernière partie de la vie d'Augustin. Et comme en plus il interprétait de façon un peu tendancieuse certains de ces textes, eh bien Jansénius au XVIIe siècle en venait à dire que un certain nombre de personnes, et peut-être même beaucoup, étaient prédestinées à ne pas être sauvées, prédestinées à la damnation, ce que Augustin n'avait jamais dit. Vous savez, les représentations du Christ janséniste avec les bras très, très proches l'un de l'autre. Voilà. Les opposants aux jansénistes, au contraire, présentaient ou donnaient des représentations du Christ crucifié avec les bras largement ouverts. À travers ces deux modèles de représentation du Christ en croix au XVIIe siècle, vous avez tout l'écart entre le jansénisme et ses opposants, parmi lesquels les jésuites étaient, au premier rang des opposants au jansénisme au XVIIe siècle. parce que justement, pour les jésuites et pour d'autres aussi. Hein. Bon, les dominicains avaient une position un petit peu intermédiaire entre les jansénistes et les jésuites. Mais pour les jésuites, c'était, les théologiens jésuites du XVIIe siècle, c'était impensable de laisser entendre que, eh bien, que certains étaient prédestinés au mal ou à la damnation. Parce que, au contraire, on avait conviction que Dieu voulait le salut de tout homme. Donc, ah, si des hommes n'ont pas entendu parler du Christ, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut, plutôt que de décréter que ces hommes sont prédestinés à la damnation, eh bien, il faut prendre le bateau, il faut se rendre en Chine ou au Japon pour annoncer l'évangile. Mais il ne faut pas raisonner comme Jansénius en disant, bah, voilà, il y a toute une partie de l'humanité qui risque de ne jamais connaître le salut. D'ailleurs, pour Jansénius, même des gens en Europe étaient prédestinés au mal. Donc, sa position était tout à fait radicale. Donc, une controverse extrêmement vive au XVIIe siècle et dans les générations qui ont suivi encore sur ce sujet. Alors, la théologie du XXe siècle a connu sur cette question, enfin, l'unique et l'universel, un certain nombre de tendances et d'évolutions que je résume aussi rapidement. On pourrait dire qu'il y a eu, pour l'essentiel, trois grandes tendances. Première tendance, c'est celle qui est représentée par le théologien protestant Karl Barth au début du 20, enfin, dans les premières décennies du XXe siècle. Donc, la position de Karl Barth, c'est de dire les religions, ce sont des tentatives purement humaines. On n'est pas sauvé par les religions. On ne peut être sauvé que par la parole de Dieu qui s'est révélée une fois pour toutes en Christ. Ça, c'est la position de Karl Barth, position que l'on appelle position exclusiviste, hein, parce que, justement, au nom de ce primat qui est donné à la révélation de Dieu en Jésus-Christ, bien, cette position en vient à exclure les religions. Alors, bien sûr, en même temps, pour Barth, le christianisme est une religion. Il est même la vraie religion. Mais Karl Barth, ce n'est pas contradictoire, parce que Karl Barth précise, si le christianisme est la vraie religion, c'est uniquement au sens où un homme pécheur peut être déclaré juste de l'extérieur. Autrement dit, ce n'est pas la religion en elle-même qui confère au christianisme le statut de vraie religion, mais c'est le fait que cette religion soit reconnue comme celle qui témoigne du vrai Dieu. Voilà, voilà la position de Karl Barth, position exclusiviste, avec évidemment une implication pour la compréhension de la mission. Il y a un certain nombre de missionnaires qui se sont réclamés de Karl Barth, et qui considérait que, une fois qu'on arrivait dans tel ou tel pays dit de mission, il fallait faire table rase de toutes les traditions religieuses païennes pour annoncer l'évangile. L'opposition radicale, donc, entre l'évangile et les religions, entre la foi et les religions. Ça, c'est la première tendance. Deuxième tendance, c'est celle qui était représentée par des théologiens catholiques dans le courant du XXe siècle en réaction contre Karl Barth. Cette deuxième tendance, elle consiste à dire, oui, certes, pour les chrétiens, Jésus-Christ est l'unique sauveur, le salut vient du Christ. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les religions doivent être considérées comme des tentatives purement humaines d'auto-justification ou d'auto-sanctification. Certes, Jésus-Christ est l'unique sauveur, mais il y a dans les religions, il peut y avoir dans les religions des éléments de vérité, des éléments de sainteté. Et donc, il faut opérer un discernement dans les traditions religieuses. Il faut faire le tri. Il faut bien sûr qu'un chrétien rejette ce qui, dans les religions, lui apparaît comme erroné ou marqué par le péché. Mais il faut en même temps que le même chrétien puisse recueillir ce qui, dans les religions, est porteur de valeurs, de semences de vérité. Et ces valeurs, ces semences de vérité, elles méritent d'être incluses dans le mystère du Christ. Voilà. Cette deuxième position, on lui a par la suite donné le nom de position inclusiviste. Inclusiviste. À la différence de l'exclusivisme de Karl Barth, l'inclusivisme. C'est-à-dire, on considère qu'il y a au moins des éléments de vérité ou de sainteté qui méritent d'être recueillis et inclus dans une compréhension large du corps du Christ. Alors, la position de Karl Rahner sur les chrétiens anonymes est en gros dans cette ligne, même si elle va un tout petit peu plus loin. Karl Rahner dit des hommes, des femmes qui n'ont jamais été atteints par l'annonce de l'Évangile et qui cependant témoignent d'un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs évangéliques, ces gens-là peuvent être reconnus comme chrétiens anonymes. Alors, cette formule a fait couler beaucoup d'encre. On a reproché à Rahner d'être, au fond, récupérateur. Il y a Hans Küng qui a répondu à Rahner, ben, que diriez-vous si les chrétiens étaient présentés par les bouddhistes comme des bouddhistes qui s'ignorent, ou des bouddhistes anonymes. Enfin, toutes sortes de débats là-dessus, c'était dans les années 60-70. Mais en gros, disons que même si sa formule pouvait donner l'impression d'être récupératrice, une sorte d'annexion des autres croyants, en gros, quand même, la position de Karl Rahner se situait bien dans cette deuxième ligne inclusiviste, qui est d'ailleurs la ligne du Concile Vatican II. Dans la déclaration Nostra Aetate sur l'Église et les religions non chrétiennes, on lit ceci. L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans les autres religions. Alors, Vatican II ne dit pas que tout soit vrai et saint dans les autres religions, évidemment, puisqu'il y a des incompatibilités évidentes entre le christianisme et les autres religions. Mais Vatican II dit, il y a dans les religions, dans les autres religions, des éléments de vérité, de sainteté. Même si, en même temps, pour le chrétien, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité, la vie. Et puis, alors, il y a une troisième tendance qui est apparue plus récemment, disons à partir des années 1970 surtout, qu'on appelle la tendance pluraliste. C'est difficile d'en parler rapidement parce que cette tendance pluraliste peut être elle-même diverse. Elle est plus ou moins radicale. Troisième position, elle consiste à dire ceci. Si on en reste à la deuxième position, inclusiviste, en réalité, on est dans une position de supériorité. C'est le christianisme qui s'instaure en juge des autres religions. Et donc, les théologiens de la troisième tendance veulent dépasser cette position dite inclusiviste au nom d'une prise en compte du pluralisme religieux. Et, par exemple, John Hick dit, jusqu'ici, le christianisme s'est considéré comme le centre, et il considérait que les autres religions gravitaient autour de lui. Bien, désormais, il faut considérer que toutes les religions sont des chemins qui mènent légitimement vers la réalité ultime. Bon, quitte à ce qu'en dernier ressort, dans l'au-delà, ben, il apparaisse que l'une des religions est préférable aux autres. Voilà. Position pluraliste radicale, qui d'ailleurs, dans l'esprit de ces théologiens, est surtout destinée à fonder une attitude de dialogue aussi radicale que possible avec les autres. Un dialogue qui serait dépourvu de toute prétention de supériorité au point de départ. Mais évidemment, cette position pluraliste radicale a suscité de vives réactions de la part de beaucoup de théologiens et aussi de la part du magistère, parce que si on dit que toutes les religions sont des chemins qui mènent également vers la réalité ultime, alors qu'est-ce qu'on fait de ce qui est quand même inscrit au cœur de la tradition chrétienne et de la confession de foi chrétienne, à savoir que, pour les chrétiens, Jésus-Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, le seul sauveur de l'humanité. Et c'est pourquoi certains théologiens ont essayé de trouver une solution de compromis entre la position pluraliste extrême et la position inclusiviste de Vatican II. C'est le cas, par exemple, du théologien belge Jacques Dupuis, ou bien du théologien français Claude Geffray. Voilà un peu, si vous voulez, tout l'éventail des positions sur le sujet. On voit que cette question de l'unique et de l'universel, c'est une question qui a suscité à toutes les époques beaucoup de débats et de controverses. Comment articuler, au fond, la confession de foi en Jésus-Christ comme unique sauveur et l'ouverture à un possible salut des autres, de ceux qui, justement, n'ont jamais été en contact, en relation concrète avec l'Évangile. Alors, sur le fond de ce rappel, je voudrais donc proposer une réflexion de portée plus systématique, mais je vais la faire précéder d'un petit intermède. Une petite histoire racontée par un prêtre irlandais de la Société missionnaire de Saint-Colomban. Ce prêtre vit et travaille aux Philippines. Et ce prêtre était, à une certaine époque, il était en charge d'une paroisse rurale au sud des Philippines. Et voici ce qu'il raconte. Un matin, je fus appelé à la clinique. Qui était l'infirmière qui m'avait appelé? Je ne m'en souviens pas. Peut-être était-ce que le père n'avait pas d'argent pour les médicaments et l'infirmière l'avait dirigé vers moi. Cela arrivait souvent. Une infirmière qui savait que tel médicament était disponible dans la petite pharmacie d'à côté, mais que les gens n'avaient pas d'argent, les dirigeait souvent vers le prêtre. Toujours est-il que dans le corridor de la clinique, il y avait une petite fille. Le père et la mère veillaient sur elle. Au fil des ans, j'étais devenu expert, donc c'est le prêtre qui parle, le prêtre qui travaillait dans cette clinique. Au fil des ans, j'étais devenu expert à déterminer le degré de pauvreté des personnes. Cette fois-là, un regard me suffit pour savoir que ces gens-là n'étaient pas seulement pauvres, mais misérables. La petite fille était si maigre que, quoiqu'elle fût probablement âgée de 7 ans, elle pesait ce que pèse un enfant de 4 ans. Elle souffrait beaucoup et luttait pour survivre. Ses paupières étaient couvertes de saleté, comme si elle avait pleuré très longtemps. Ses cheveux étaient plats et nattés. Ses yeux étaient remplis de souffrance. J'aidais à acheter des médicaments qu'on put trouver, et dans la pharmacie, on m'apprit que l'enfant n'était pas baptisé. Vous savez, hein, théologie traditionnelle, hein, sans le baptême, pas de salut, nécessité du baptême pour être sauvé. Hein. Donc j'appris que cet enfant n'était pas baptisé. Une enquête discrète révéla que les parents n'étaient pas catholiques. Sans doute étaient-ils d'une autre dénomination chrétienne, je ne demandais pas laquelle. Mais l'infirmière s'approchait maintenant de moi pour que je baptise l'enfant. Une raison sans doute pour laquelle elle avait fait appel à moi. Une légère pression ou même une suggestion de ma part aux parents aurait sans doute suffi pour obtenir leur accord. L'enfant, manifestement, était en train de mourir. Je ne me souvenais pas de ne pas avoir baptisé un enfant en train de mourir auparavant. Au moment de la mort, on veut aider de la manière qu'on peut. Et comme prêtre, j'avais une responsabilité spéciale pour tout ce qui concerne le salut des gens. En bonne théologie catholique, il vous faut la permission des parents pour procéder au baptême. Mais ils étaient si pauvres et il bénéficiait de mon aide, psychologiquement, il n'avait pas la liberté de procéder à une décision. Je décidai donc de ne pas demander. Rien ne les empêchait, eux, de me demander à moi. Ils n'avaient rien demandé. Et si je demandais maintenant, je tirais parti de leur pauvreté. Mais l'enfant, je la regardais, et quand je vis ses yeux avec la marque des larmes, sûrement des semaines et peut-être des mois de souffrance, je pris conscience que pousser au baptême maintenant, c'était impliquer qu'autrement Dieu ne la prendrait pas sur son cœur. Et c'était donc une insulte à Dieu. Je mis ma main sur sa joue et embrassai doucement son front et je pris mon congé. Donc c'est une belle histoire, hein, qui laisse entendre au fond comment ce prêtre, se trouvant dans cette situation précise, tout à fait singulière, a pris conscience qu'il y aurait eu, au fond, dans la demande adressée aux parents, quelque chose qui aurait, à la limite, impliqué un soupçon sur Dieu, comme si Dieu n'aurait pas, au fond, accueilli cet enfant. Alors j'ai voulu lire cela à titre d'intermède parce que, de cette manière, ça nous donne l'horizon, ça nous dit quelque chose de l'horizon pastoral, apostolique, dans lequel se pose cette question grave, hein, du point de vue théologique, de la destinée des autres. Comment articuler la confession de foi en l'unique sauveur et la destinée ou le sort de ceux qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas été atteints par l'annonce de l'évangile ou dont les parents ne sont pas chrétiens, etc. Alors pour essayer de reprendre la question, de, si vous voulez, d'une manière plus systématique, je propose une démarche en quatre temps. Premier temps, une petite réflexion sur gratuité et universalité du salut. Gratuité et universalité du don de Dieu. Ce que je veux dire là est tout simple. Je n'essaye plus maintenant de le justifier par la tradition. De cette manière, tout ce que je dis dans les semaines précédentes, je crois, suffit à le justifier. Donc j'avance la thèse. On ne peut pas s'appuyer sur l'Écriture pour tenir une prédestination au mal ou une prédestination à ne pas être sauvé. On ne peut pas s'appuyer sur l'Écriture pour tenir que Dieu aurait voulu que telle ou telle personne n'accède pas au salut. Alors, je sais bien l'objection qui peut être aussitôt formulée. Mais dans l'Écriture, il est dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, au livre de l'Exode. C'est vrai. Mais voyons comment saint Paul relie l'Exode au chapitre 9 de l'Épître aux Romains. À trois reprises, Paul fait référence à Pharaon. Et il dit clairement que Dieu se sert de Pharaon pour accomplir le bien. C'est vrai, Paul cite, il se réfère en tout cas à ce passage de l'Exode, mais à trois reprises, au chapitre 9 de l'Épître aux Romains, Paul laisse entendre qu'il n'y a pas eu une volonté de Dieu qu'il y ait le mal, évidemment, mais que le mal existant, Dieu a voulu s'en servir au profit du bien. Le dessein du salut, pour le dire positivement, aux yeux de saint Paul, le dessein du salut s'exerce pour tous, à l'intention de tous. Alors bien sûr, Dieu a choisi Jacob, Dieu a élu Israël. Mais s'il a fait cela, c'est pas seulement pour Israël, c'est pour toute la terre. C'est dit en toutes lettres, au chapitre 9 de l'Épître aux Romains. On peut le vérifier. Par exemple, Romains, chapitre 9, verset 17. Romains 9, 17. Paul dit, « L'Écriture dit au Pharaon, Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et pour qu'on célèbre mon nom par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Et la pointe, c'est le pour que. Et plusieurs fois, Paul raisonne de cette manière au chapitre 9 de l'Épître aux Romains. Alors, ce qui est dit à travers cela, c'est que il n'y a pas à opposer la gratuité du don de Dieu et l'universalité de l'offre du salut. On pourrait, si vous voulez, on pourrait être tenté, enfin, sous prétexte que l'initiative du salut appartient à Dieu, on pourrait être tenté d'en déduire que du coup, eh bien, Dieu ne réserve le salut qu'à certains et pas à tous. Et si on pousse cette logique jusqu'au bout, on tombe dans le jansénisme. Or, ce que la lecture de la Bible nous révèle, c'est que nous ne pouvons pas opposer ainsi la gratuité du don de Dieu et l'universalité de l'offre du salut. Paul le dit de manière plus explicite dans la première épître à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. On ne peut pas être plus clair. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il ne dit pas tous les hommes seront sauvés. Que ça serait aller un peu vite, au mépris de la liberté des êtres humains. Mais il dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est-à-dire, du côté de Dieu, la volonté universelle de salut ne fait pas de doute aux yeux de Paul. Et c'est justement parce qu'il y a du côté de Dieu une volonté universelle de salut, c'est précisément pour cette raison que Paul peut dire ailleurs, il n'y a plus ni juif ni grec. Bon, si vous êtes juif, vous pouvez être sauvé. Mais ce n'est pas parce que, comme juif, vous pouvez être sauvé, que des grecs, eux, ne seront jamais sauvés. Dieu ne fait pas exception de personne. Donc, voilà, il faut arriver à tenir ensemble l'un et l'autre. Et c'est une ligne de crête. Hein, parce que dans l'histoire de la théologie, on risque toujours de tomber d'un côté ou de l'autre du précipice. Je dis dans l'histoire, pour ne pas dire dans le présent. Hein. C'est-à-dire, ou bien vous dites, mais voilà, il faut absolument soutenir que l'initiative du salut vient entièrement de Dieu. Mais vous risquez parfois, à partir de cette affirmation qui est juste, vous risquez parfois d'en induire, pas vous, hein, mais d'autres risquent parfois d'en induire, que du coup, eh bien, certains sont irrémédiablement voués à ne pas être sauvé. Ou bien, à l'inverse, vous avez à cœur d'affirmer que tous, finalement, seront sauvés. Mais vous pouvez le dire d'une manière qui ne respecte plus l'initiative divine du salut. Précisément, la tradition biblique nous invite à concilier l'une et l'autre affirmation. Gratuité du don de Dieu et universalité de l'offre du salut. C'est précisément parce que le don de Dieu est gratuit qu'il est offert à tous. Si le don de Dieu n'était pas un don gratuit, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire ou bien qu'on est purement simplement dans le régime de l'arbitraire divin, ou bien ça voudrait dire que le salut dépend uniquement de nos œuvres. Or, Paul n'a pas cessé de se battre contre cette idée selon laquelle le salut dépendrait entièrement de nos œuvres. Disons, en gros, c'est enfin, le souci premier de Luther, c'est d'insister sur la seule grâce, la sola gratia. Hein. Et donc, au nom de son insistance sur la sola gratia, dans le contexte de l'époque, disons, il est conduit à ne pas valoriser tellement l'idée du salut des autres. Hein. Ce n'est pas premier dans sa perspective. Mais en même temps, Luther n'est pas jansénus. Hein. Luther n'est pas beaucoup intervenu hein, sur cette question du salut des autres. Hein. Donc ça, c'est, je crois, la première thèse, si vous voulez, qu'on peut avancer quand on réfléchit sur cette question. Hein. Articuler ensemble gratuité et universalité du don de Dieu. Alors, deuxième réflexion sur le problème des voies du salut. Alors, ici encore, on risque d'être prisonnier d'un dilemme. Toutes les religions sont-elles voies du salut? Alors, si on répond oui, comme le font des courants radicaux de la théologie pluraliste en théologie des religions, si on répond oui, si on répond que toutes les religions sont également des voies du salut, alors la question c'est comment articuler cela avec la confession de foi chrétienne qui parle de Jésus-Christ comme unique sauveur. Mais inversement, si on répond non, si on dit en réponse à la question « Toutes les religions sont-elles voies du salut ?» si on répond non, on risque aussi de se mettre en contradiction avec l'Écriture, dans la mesure où l'Écriture dit explicitement « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés ». Alors, que faire? Eh bien, il faut changer de problématique. Voilà. Hein? Si on est coincé, en quelque sorte, hein, par cette alternative, hein, toutes les religions sont-elles voies de salut ou non? Donc, ça veut dire que la question est mal posée. Il faut changer de problématique et il faut opérer, en fait, un double déplacement par rapport à cette problématique. Premier déplacement, le problème de cette problématique, le problème de cette question, toutes les religions sont-elles voies de salut, c'est que cette question méconnaît la complexité des religions qui, par certains côtés, comportent des forces de libération, de vie, etc., mais qui aussi, par d'autres côtés, peuvent comporter des forces asservissantes, ou, pour le dire en langage chrétien, des aspects qui sont, disons, sous le signe du péché, des aspects, des dimensions pécheresses. C'est trop global, si vous voulez, comme question. Toutes les religions sont-elles voies de salut? Mais surtout, le second déplacement qu'il faut opérer, qui, à mon avis, est beaucoup plus fondamental, c'est que du point de vue de la théologie chrétienne, ce n'est pas par la religion qu'on est sauvé, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas par la religion qu'on est sauvé. On est sauvé par Dieu, moyennant la foi. C'est ce que dit Paul, c'est ce que Paul ne cesse pas de dire dans l'Épître aux Romains, dans l'Épître aux Galates. On est sauvé par Dieu, par la grâce de Dieu, moyennant la foi. La foi, bien sûr, peut et souvent doit s'exprimer à travers la religion. Voilà. Mais ce n'est pas d'abord par la religion comme telle qu'on est sauvé, mais par la foi, moyennant la foi. Alors, cette formule, ce n'est pas par la religion qu'on est sauvé, au sens strict, mais par Dieu, moyennant la foi, c'est la formule paulinienne, elle vaut d'abord du christianisme lui-même. C'est-à-dire que en christianisme, pour le christianisme lui-même, le salut ne dépend pas simplement, purement et simplement, du fait qu'on s'adonne aux pratiques extérieures de la religion chrétienne. Même si, évidemment, souhaitable de le faire, et nécessaire de le faire si on est chrétien. Mais le salut comme tel ne dépend pas d'abord de cela. Le salut dépend du fait que, comme baptisé, on vit effectivement de la foi, et c'est cette foi qui va s'inscrire dans un certain nombre de pratiques, et entre autres des pratiques proprement religieuses. Or, ce qui vaut du christianisme vaut aussi, bien sûr, d'autres croyants qui peuvent, dans certaines situations, se trouver, ont habité par une attitude, une disposition intérieure qui a quelque chose de la foi ou quelque chose de l'amour, de l'agapé, comme dit le Nouveau Testament. Alors, il faut ici apporter, il est vrai, quelques distinctions. Parce que si on parle d'une possibilité de foi, en dehors du christianisme, ce n'est évidemment pas la foi en ce que nous confessons dans le cadre du credo. Mais ça ne veut pas dire, néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une certaine forme de foi, une expérience de foi réelle qui puisse habiter des croyants et aussi des incroyants, d'ailleurs, donc en dehors du christianisme. Donc c'est par cette voie, si vous voulez, qu'on peut penser la possibilité, en effet, que le salut atteigne des hommes et des femmes qui, cependant, n'ont jamais entendu parler du Christ. Ou qui, s'ils ont entendu parler du Christ, n'ont jamais été concrètement rejoints par l'annonce de l'Évangile. Il y a des fondements dans l'Écriture elle-même pour dire cela. Dans le Nouveau Testament en particulier, il y a deux textes qui sont de très très grande portée. Le premier, c'est le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, voilà, où Paul passe en revue, ou l'auteur de l'Épître aux Hébreux passe en revue, justement, des hommes, des femmes, des siècles précédant la venue du Christ, et qui ont été authentiquement croyants. Par définition, c'est des gens qui ne connaissaient pas le Christ. Abraham, Isaac, etc. Enfin, tous ceux qui sont énumérés au chapitre 11. Hein. Par la foi, Abraham quitta son pays. Par la foi, Sarah, etc. Hein. Par définition, ce sont des hommes, des femmes qui n'ont jamais connu le Christ, puisqu'ils vivaient bien avant. Et cependant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux les présente comme ayant été authentiquement croyants. Pas au sens, évidemment, où ils auraient connu le credo, et pour cause. Mais au sens où ils ont été dans une attitude existentielle d'adhésion au fond de leur conscience, d'adhésion à celui dont cependant ils ne connaissaient pas le nom et le visage. Or, s'ils ont été authentiquement croyants, alors en bonne théologie paulinienne, nous pouvons reconnaître qu'ils sont bénéficiaires du salut, puisque nous sommes sauvés moyennant la foi. Donc voilà un texte qui fournit un fondement tout à fait important. Et vous voyez, ça ne revient pas du tout à dire que les religions ou les autres religions comme telles apporteraient le salut au même titre que le christianisme. Non, on s'est déplacé par cette problématique. Le centre de gravité, c'est d'abord cette question de la relation existentielle entre, au fond, une conscience et Dieu, et le Dieu qui sauve. Alors, notre texte majeur du Nouveau Testament, qui apporte un fondement important aussi à la perspective que je développe actuellement, c'est le chapitre 25 de l'Évangile de Matthieu, ce qu'on appelle la parabole du jugement dernier. Voilà. Parabole dans laquelle il est dit que ceux et celles qui auront donné à manger, donné à boire, ceux et celles qui auront visité le malade, etc., eh bien, mystérieusement, ils auront fait cela envers le Fils de l'homme. Du moins, c'est ce qui sera révélé à la fin des temps. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Or, bien sûr, dans son sens immédiat, la parabole, elle concerne essentiellement les membres de la communauté chrétienne, les relations au sein même de la communauté chrétienne. Au sein de la communauté chrétienne, il faut prendre souci des frères et du plus petit d'entre les frères. Mais si on regarde de près les gestes qui sont préconisés dans cette parabole, ce sont des gestes qui, de soi, peuvent être accomplis par tout homme de bonne volonté, qu'il soit chrétien ou non, qu'il soit croyant ou non. Vous avez des bouddhistes, vous avez des hindous, vous avez des musulmans, vous avez des incroyants, qui se montrent tout à fait à même, fort heureusement, de donner à manger à celui qui a faim ou de visiter le malade qui est dans l'épreuve. Alors, ce qui est révélé à travers ce texte, c'est que pour la pierre de touche de la relation avec le Fils de l'homme, eh bien, c'est quelque chose qui, disons, est de l'ordre de l'agapé, pour reprendre le mot cher au Nouveau Testament, l'agapé, le don de soi à autrui. Donc on voit bien qu'on a dans le Nouveau Testament des textes qui apportent un fondement à cette perspective qui fait échapper à cette fausse question. Est-ce que les religions sont toutes ou plus ou moins des voies de salut? Si on raisonne dans cette perspective, on n'en sort pas. Il faut déplacer la question, le centre de gravité de la question, ça doit être plutôt justement l'attitude profonde, la disposition profonde, est-ce qu'elle est ou non de l'ordre de la foi ou de l'agapé ou de la foi qui s'inscrit dans l'agapé. Voilà la pierre de touche. Et comprenons bien que ce n'est pas nous qui sommes juges de cela. Là, on est renvoyé au mystère de ce qui se vit en chaque conscience. C'est à ce niveau-là, à cette profondeur-là, que se joue le salut pour tout homme. Alors, troisième proposition, un petit mot sur théologie du salut et théologie de la mission. Parce qu'évidemment, à partir de ce que je viens de dire, il y aurait une tentation possible qui serait de dire des hommes, des femmes de bonne volonté, quelle que soit leur tradition, quelle que soit leur religion, peuvent être sauvés, finalement, moyennant une attitude de foi, d'espérance, d'agapé. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a encore place pour la mission? Est-ce qu'il y a encore place pour une annonce de l'Évangile? Réponse, oui. Oui. Il s'agit, justement, de comprendre que la reconnaissance de cette possibilité de salut pour tout homme n'exclut pas l'exigence chrétienne de l'annonce du salut, mais au contraire, l'implique. Alors, pour fonder cette affirmation, on peut repartir de nouveau de l'Épître aux Romains. Le chapitre 10 de l'Épître aux Romains insiste beaucoup sur la prédication. Qui croira si la parole n'a pas été annoncée? Et pour que la parole soit annoncée, il faut que quelqu'un soit envoyé pour l'annoncer. Si vous voulez, la perspective d'accueil, la possibilité de salut bien en dehors des limites du christianisme, ne signifie pas que les chrétiens ou que les églises soient dispensées de l'annonce de l'Évangile. Simplement, ce n'est pas parce qu'il y a annonce de l'Évangile qu'il y aura nécessairement salut. Vous voyez, c'est pas du même ordre. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a d'ailleurs quelque chose qui est tout à fait étonnant, c'est dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14. Il y a un passage qui, certainement le plus sévère que Paul ait jamais écrit sur les Juifs. Si on compare avec l'épître aux Romains, ça paraît très sévère. Mais quand on regarde de près, on s'aperçoit que si les Juifs, d'après ce texte, ne plaisent pas à Dieu, selon Paul, ce n'est pas parce qu'ils ont mis à mort Jésus, c'est pas ça qui est mis en avant. Mais Paul dit ceci, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 14, « Ils ne plaisent pas à Dieu, ils sont ennemis de tous les hommes, quand ils nous empêchent de prêcher aux païens pour leur salut. Voilà. » Autrement dit, ce qui est reproché d'abord aux Juifs, c'est d'empêcher l'annonce. C'est ça que Paul met en avant. C'est une manière de dire, en creux, l'importance essentiel de l'annonce de l'Évangile. Et donc, la reconnaissance de l'universalité du dessein salvifique, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, ne signifie pas qu'il n'y ait pas exigence d'une mission, d'une annonce de l'Évangile. Alors malheureusement, l'histoire des missions contient, à côté de très belles choses, des choses moins belles, quelquefois même un peu horribles. Mais il ne faut pas que la lucidité sur cette histoire des missions empêche de reconnaître l'exigence d'une annonce de l'Évangile, parce que ce qui est en jeu à travers l'annonce de l'Évangile, c'est au fond la transmission historique de l'annonce du salut, de la proposition chrétienne du salut. Dernier point, enfin, dernière proposition, il faudrait réfléchir sur les implications de ce qu'on vient de voir pour les relations au sein même de l'Église, ou au sein même des Églises. Paul, là encore, soulève explicitement le problème, également dans l'Épître aux Romains, dans les derniers chapitres de l'Épître aux Romains, après avoir médité sur le mystère d'Israël et des nations, au chapitre 9, 10, 11 de l'Épître aux Romains, Paul médite sur les relations entre chrétiens, au sein de la communauté. Et il montre que tout se joue dans la relation entre les forts et les faibles. Au sein de la communauté chrétienne, celui qui est fort risque toujours de juger celui qui est faible. Et si c'est le cas, il reproduit l'erreur qui était jadis celle d'Israël vis-à-vis des nations. Eh bien, en partant de là, on pourrait réfléchir plus largement sur les implications ecclésiales de cette vision paulinienne. On pourrait dire qu'il y a deux écueils possibles, là encore. Premier écueil, c'est lorsque le christianisme, bien enraciné dans tel ou tel pays ou dans tel ou tel continent, se met en position de juge vis-à-vis de chrétiens qui sont dans d'autres parties du monde. Alors, si le christianisme se présente ainsi, d'une certaine façon, il se met dans une position de domination qui correspond à ce que Paul appelle l'attitude des forts dans l'Épître aux Romains. Mais il y a un second écueil possible, c'est inversement, si le christianisme se développe dans des pays, dans des continents, s'il se développe d'une manière telle qu'ils en viennent à rejeter finalement le témoignage rendu par d'autres pays, par d'autres chrétientés dans d'autres pays du monde, d'autres communautés chrétiennes. Alors, là encore, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Donc, si vous voulez, il y a tout un champ de réflexion là sur les implications ecclésiales de ce que dit Paul sur les relations entre forts et faibles au sein de la communauté chrétienne. Là, nous avons réfléchi, à partir de la formule paulinienne, il n'y a ni juif ni grec. En Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. Ça veut dire justement, c'est en tout cas l'une des dernières implications de cette formule, ça veut dire que au sein même de la communauté chrétienne, au sein même des églises, la différence nationale, la différence de culture, etc., ne doit pas être le tremplin d'une supériorité des uns sur les autres. Et je crois que ça ferait aussi partie d'une réflexion sur l'unique et l'universel. Comment le salut est à l'œuvre? Eh bien, le salut est aussi à l'œuvre dans la manière dont les uns et les autres se situent, les uns par rapport aux autres, au sein de la communauté chrétienne, au sein des églises. Donc le salut, finalement, ne peut être pleinement à l'œuvre que s'il opère non seulement dans la relation, dans le regard que les chrétiens portent sur les non-croyants ou sur les autres croyants, mais le salut ne peut être pleinement à l'œuvre que s'il opère aussi à l'intérieur même du christianisme, non pas en nivelant les différences légitimes entre christianisme européen, christianisme africain, christianisme asiatique, etc., mais en faisant en sorte que les uns et les autres, chrétiens en diverses parties du monde, puissent être ensemble en communion, au-delà de toute relation correspondant à ce que Paul appelait la relation des forts et des faibles dans la communauté de Rome. Voilà. Je ne sais pas si... On peut peut-être faire la pause maintenant, puis après la pause, éventuellement, je répondrai aux questions que vous auriez sur ce chapitre, qui est un chapitre vraiment important, question de destinée des non-croyants ou des autres croyants. Donc, je répondrai plutôt après la pause. Oui, moi je crois entièrement, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai réagi un petit peu tout à l'heure contre l'interprétation qui me semble réductrice que j'ai lue. On dit, mais ça concerne uniquement les relations au sein de la communauté chrétienne. Alors, je veux bien que du point de vue exégétique ou historique, ce soit exact, l'origine, c'était, mais je crois tout à fait, ce que vous dites me semble extrêmement important. L'horizon, c'est les nations. Le propos de Matthieu, même s'il concerne d'abord, dans un premier temps, de manière immédiate, les relations entre les chrétiens et les plus petits de leurs frères, c'est une parabole qui a un horizon, une visée beaucoup plus large, universelle, ça je crois. Dans ce premier point aussi, quand on dit être sauvé, à chaque fois il faudrait préciser qu'est-ce qu'on a au fond, en esprit quand on parle, quand on emploie ce mot. Oui, je crois que c'est important. Non. Voilà, alors, on va terminer par un dernier développement que j'ai intitulé « L'origine et la fin ». Donc, nous avons terminé, en quelque sorte, l'interprétation, la réinterprétation de la formule polynienne. Hein. Il n'y a plus ni maître ni esclave, il n'y a plus l'homme et la femme, il n'y a plus ni juif ni grec. Mais il me semble important d'achever ce parcours par quelques mots qui auront en même temps valeur d'ouverture, de conclusion et d'ouverture, que j'intitule donc « L'origine et la fin ». Je voudrais, dans cette dernière phase de notre parcours, essayer de dire comment, en amont et en aval de l'existence humaine dans le présent, comment le salut, tel qu'il est attesté par la tradition chrétienne, invite à dire quelque chose de l'origine et de la fin. Alors, commençons par voir ce qu'il en est du côté de l'origine. Je ne fais ici qu'ouvrir quelques pistes, hein, qui seraient bien sûr à prolonger. Du côté de l'origine, il me semble important de se demander comment le salut est à l'œuvre. Quel sens cela a de dire que le salut est à l'œuvre à l'origine? Parce que si vous voulez, dans les phases précédentes de cette dernière partie, nous avons réfléchi sur la manière dont le salut est à l'œuvre à travers les diverses dimensions de l'existence humaine, personnelle et collective. L'existence sociale, la relation homme-femme, la question du rapport aux autres, la destinée des autres, etc. Mais comment le salut, quel sens cela a-t-il de dire que le salut est à l'œuvre en amont de cette existence humaine telle que nous la faisons l'expérience? Alors, il me semble qu'on peut répondre à cette question de trois manières. D'abord, en montrant comment la création est elle-même ordonnée au salut, premier point. Deuxièmement, en reconnaissant qu'une initiative de salut se donne à entendre, à lire, tout près de l'origine. Si on prend au sérieux la finale du chapitre 3 de la Genèse, et enfin, en réfléchissant sur ce qu'on peut appeler l'élection de l'humanité, le choix de l'humanité. Alors, je m'explique un tout petit peu. Première manière de réfléchir sur la façon dont le salut est à l'œuvre du côté de l'origine, eh bien, c'est de reprendre conscience du fait que la création est ordonnée au salut. Dieu, selon la révélation chrétienne, est compris comme celui qui est tout entier communication de lui-même, par amour. Dieu, de toute éternité, désire se communiquer par amour. Alors, cela veut dire que Dieu désire se communiquer à ce qui n'est pas lui. Voilà. Bon, que Dieu soit communication de lui-même, ça a évidemment des implications importantes pour l'être même de Dieu. Le Dieu un et trine de toute éternité, Dieu engendre son verbe, sa parole, et de toute éternité, du Père et du Fils procède l'Esprit, le lien du Père et du Fils. Mais si Dieu est éternellement volonté de se communiquer, volonté de se donner, alors il désire se communiquer à ce qui n'est pas lui. Alors, la difficulté se présente aussitôt. Qu'est-ce qui n'est pas Dieu? Qu'est-ce qui n'est pas Dieu? Y a-t-il quelque chose qui ne soit pas Dieu? De soi, il faut répondre non. Il n'y a rien qui ne soit pas Dieu, au sens où il n'y a pas, à l'origine, un autre Dieu concurrent du seul Dieu. Sinon, on serait dans le manichéisme, ou dans la religion mazdéenne, etc. Donc, de soi, non, il n'y a rien qui ne soit pas Dieu, sinon Dieu ne serait pas Dieu, à moins que Dieu ne veuille qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas lui. Donc, à l'origine, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, comme le dit la formule de l'Écriture sainte. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Dieu ne trouve pas en face de lui un Dieu du mal qui serait concurrent, en quelque sorte, comme le voudrait le manichéisme, le principe du mal qui serait concurrent. Mais par contre, Dieu, précisément parce qu'il est communication de soi, volonté de se communiquer soi-même, Dieu désire qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas lui, mais qui puisse un jour participer à ce qu'il est. Et c'est tout le sens de la création. La création est ainsi comprise comme l'acte par lequel Dieu fait en sorte qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas lui. Enfin, on parle dans la tradition chrétienne de la création ex nihilo, à partir de rien. Ça veut dire que Dieu n'a pas simplement aménagé une matière déjà préexistante. Non. C'est une vraie création. Ce n'est pas à partir d'une matière préexistante que Dieu a créé le monde, puisque en dehors de Dieu, il n'y a rien. Mais Dieu n'en a pas moins créé quelque chose qui n'est pas lui. Créer, c'est créer du différent. En créant, Dieu crée quelque chose de différent de lui. Mais ce quelque chose de différent de lui, l'ordre du créer, bien Dieu souhaite que cela puisse un jour communier à sa propre vie. Il y a un père de l'Église qui a résumé cela de manière admirable, c'est saint Irénée. Dieu crée l'homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Dieu a donné l'être à l'être humain, à l'humanité, pour que l'humanité puisse communier à la vie divine. Alors dire cela, ça revient précisément à dire que l'acte de création est comme tel orienté vers le salut. C'est en ce premier sens que le salut est à l'œuvre dès la création, au sens où la création comme telle est ordonnée au salut. Bon, les pères grecs étaient particulièrement sensibles à cet aspect des choses. Ce sont les pères latins qui ont, c'est le christianisme latin qui a beaucoup plus insisté sur le salut comme rédemption par rapport à la faute ou au péché. Mais pour les pères grecs, enfin le salut, c'est d'abord justement l'accomplissement de la vocation de l'humanité. L'être humain n'est pas créé sans être, dès le commencement, appelé à communier à la vie divine. Une création donc ordonnée au salut. Le sens de la divinisation. Alors il y a une deuxième manière de réfléchir sur la façon dont le salut est à l'œuvre à l'origine, ou près de l'origine, disons, près de l'origine, en amont de l'existence telle que nous en faisons l'expérience aujourd'hui. Cette deuxième manière de réfléchir, c'est celle qui ressort du chapitre 3 de la Genèse. Je me réfère ici à ce que j'ai expliqué la dernière fois. Le péché, le mal, vient très vite dans la Bible, chapitre 3 de la Genèse. Mais précisément, je l'avais dit l'autre jour, dès la fin de ce chapitre 3, il y a une ouverture vers un avenir. Le péché n'est pas présenté comme le dernier mot. C'est le sens de ce qu'on appelle parfois le protévangile. J'avais commenté l'autre jour d'abord le fait que ni l'homme ni la femme, après la chute, ne sont maudits. Seul le serpent est maudit, mais ni l'homme ni la femme ne sont maudits. Et j'avais surtout commenté le fameux passage de Genèse 3, 15. Il t'attaquera au talon et tu lui écraseras la tête. J'avais laissé entendre comment il y avait à travers ce verset une promesse. Et la tradition chrétienne l'a bien entendu en ce sens-là. Donc, le péché vient très vite, d'après le récit des origines, mais le salut, ou la promesse de salut, vient très vite aussi. Voilà. Comment dit, en amont de l'existence humaine telle que nous en faisons l'expérience, il y a bien cette tragédie, ce drame du péché, qui nous précède, mais il y a aussi une promesse qui nous précède. Promesse d'une restauration, promesse d'une délivrance de la condition dans laquelle l'être humain s'est trouvé engagé de par le règne du mal ou le règne du péché. Et enfin, un troisième sens dans lequel nous pouvons comprendre que le salut est à l'œuvre du côté de l'origine. C'est sans doute le plus neuf par rapport à tout ce que j'ai dit ces dernières semaines, mais je ne voudrais pas le passer sous silence. Plus nous avançons dans la réflexion sur les origines du monde, sur les origines de l'univers, plus nous sommes rendus attentifs à l'importance de ce que les philosophes appellent la contingence. Voilà. L'humanité a émergé. L'humanité a émergé. Il y a d'autres espèces qui n'ont pas eu de postérité. Bon, je fais allusion ici au fameux thème de Darwin, enfin, la fameuse théorie de la sélection des espèces. Et, bon, voilà. Donc on est rendu de plus en plus sensible au fait que, voilà, l'être humain qui apparemment, dans sa fragilité, aurait pu ne pas se développer, eh bien, voilà, il s'est développé sur notre Terre, là où d'autres espèces n'ont pas eu de postérité. Alors, on peut réfléchir là-dessus et se demander comment comprendre cela, comment interpréter cela, quelle signification donner à cela. Teilhard de Chardin, au XXe siècle, a beaucoup réfléchi là-dessus. Et à la suite de sa réflexion, l'un de ses interprètes, qui s'appelle Jacques Arnoux, qui a beaucoup écrit sur le thème de la création, le thème de l'évolution. Ces dernières années, il a publié plusieurs ouvrages là-dessus. Jacques Arnoux, A-R-N-O-U-L-D. Bien, Jacques Arnoux propose de faire appel ici au thème de l'élection. Vous savez, le thème biblique de l'élection, dans la tradition biblique, il est employé sur un registre historique. Le thème de l'élection est employé pour dire le fait qu'un peuple, le peuple d'Israël, a été choisi. Voilà. Or, Jacques Arnoux propose de se demander si ce même thème de l'élection ne peut pas servir aussi à interpréter théologiquement le fait que, précisément, l'humanité a pu émerger, se développer, malgré à travers la contingence que je disais tout à l'heure. Si vous voulez, à travers cette réflexion de Jacques Arnoux, ce qui est en jeu, c'est une lecture de l'histoire de l'évolution qui fasse place précisément à la thématique du salut. De soi, on pourrait dire, enfin, vu l'extérieur, enfin, vu la fragilité de l'homme, vu la fragilité de l'humanité, bah, l'humanité aurait pu être éteinte, disparaître. Enfin, un scientifique, un savant peut tenter de vous dire cela, d'un point de vue simplement du point de vue du calcul, des probabilités, je ne sais quoi. Or, c'est un fait que l'humanité est là, sur notre Terre, sur notre planète. On ne se prononce pas sur d'autres planètes, mais sur notre planète, c'est un fait, l'humanité est là. Voilà. Et donc, de façon suggestive, de fait, Jacques Arnoux propose de dire, mais voilà, plutôt que de se crisper sur la question du pourquoi ce vivant et non pas d'autres, pourquoi l'humanité s'était développée alors que d'autres espèces ont disparu ou sont menacées de disparaître, eh bien, n'était pas plutôt à prendre acte de ce fait et, alors, en changeant de registre, en se situant cette fois sur un registre théologique, à lire théologiquement cela comme, au fond, l'expression d'un salut déjà à l'œuvre, à l'origine, aux origines de l'humanité. L'humanité, en quelque sorte, voilà, arrachée, sauvée, par rapport à ce qui aurait pu justement conduire à son extermination pure et simple. Voilà. Je voulais vous livrer cette réflexion, enfin, qui est relativement rare, enfin, dans le champ théologique, mais qui est intéressante, qui est suggestive. Alors, vous voyez qu'à travers ces trois entrées, nous nous situons à chaque fois sur des registres très différents. Mais ce qui ressort en tout cas de tout cela, c'est que nous ne sommes pas simplement conduits à réfléchir sur la manière dont le salut est à l'œuvre dans l'existence humaine telle que nous l'éprouvons, telle que nous l'expérimentons aujourd'hui, mais nous sommes conduits à porter nos regards en amont de tout cela et à nous demander comment le salut était déjà à l'œuvre, comment le salut a été déjà à l'œuvre bien avant nous. Enfin, quelque chose du salut, au moins. Et c'est intéressant parce que, spontanément, quand on parle du salut, on pense plutôt à l'avenir. Le salut est en avant de nous. Nous attendons la pleine manifestation du salut, avec la fin, etc. Mais c'est intéressant aussi de se reporter vers le commencement. Et la Bible elle-même y invite d'une certaine manière, pour les raisons que j'ai dites, hein, notamment ce thème, ce qu'on appelle le protévangile à la fin du chapitre 3, et aussi la Bible nous y invite par la façon dont elle parle de la création. Quoi. Bon, la Bible nous parle de l'humanité, enfin Israël sauvé des eaux de la mer morte, qui aurait pu, de la mer rouge, pardon, qui aurait pu l'engloutir, mais on peut aussi penser, de ce point de vue, l'humanité comme sauvée. La création comme salut, la création comme, disons, une première expérience de salut. Il y a des textes prophétiques qui font précisément le lien entre salut et création. Alors, du côté de la fin, maintenant, comment penser le salut dans son rapport à la fin? Alors, la première chose qu'il faut souligner, c'est que, au regard de la tradition chrétienne, le salut est inséparablement lié à un événement déjà venu dans notre histoire, qui est la résurrection du Christ. Je vous ai donné un beau texte du père Bernard Cesbouet, dans son livre « Jésus-Christ l'unique médiateur ». Il écrit ceci. Ainsi, la résurrection de Jésus révèle-t-elle, en même temps qu'elle l'achève, le salut de l'homme. Ce qu'elle accomplit en Jésus est pour nous. Donc c'est un salut déjà venu, mais qui est pour nous. Elle est la parabole en acte et le gage tenu de notre salut. La résurrection est à la fois notre présent secret et notre avenir certain. Parce qu'elle est l'avenir de l'homme, elle est notre espérance. Cette révélation du contenu du salut se fait dans le langage de la vie absolue, d'une vie qui est communion et amour. Car la résurrection annonce la fécondité de l'amour. Elle investit du rayonnement de sa gloire l'image de Jésus en croix. L'amour de Jésus transfigurait déjà l'horreur en beauté. Désormais, la gloire et la beauté viennent confirmer que le signe de l'amour coïncide avec l'absolu de la vie qu'il signifie. Alors c'est le premier point qu'il faut vraiment souligner. Quand on parle du salut du point de vue de son rapport à la fin, il faut commencer par dire que ce salut est déjà inauguré dans notre histoire par l'événement de la résurrection du Christ. Il faut reconnaître que ce thème a été peu présent dans la tradition chrétienne, au moins explicitement, parce que la tradition chrétienne a beaucoup plus souligné que nous étions sauvés par la croix, sauvés par la croix du Christ, spécialement dans l'Occident latin. Il y a quand même un concile, mais ce n'est pas un concile œcuménique, un concile local, régional, le concile de Tolède, durant le premier millénaire, concile de Tolède, il y a eu plusieurs conciles à Tolède, mais l'un des conciles de Tolède, qui a parlé explicitement d'un salut par la résurrection. Et je crois que c'est quelque chose qui serait à valoriser aujourd'hui. Il ne faut pas dire simplement sauvé par la croix du Christ, il faut dire aussi, et peut-être encore plus, sauvé par la résurrection du Christ. La résurrection comme événement de salut, déjà advenu dans notre histoire, pour le Christ, pour ceux et celles qui bénéficient déjà dans l'au-delà de son salut, à commencer par la Vierge Marie, selon l'espérance chrétienne. Voilà. Mais ce salut, cet événement du salut qu'est la résurrection du Christ, est lui-même anticipation du salut plénier auquel l'humanité se trouve appelée. C'est ce que dit d'ailleurs la suite du texte du Père Sesboué, c'est un peu plus loin, montre comment la résurrection de Jésus est une prophétie de la résurrection générale. Je lis au moins les premières lignes de ce passage. Avec l'événement de Jésus, c'est la fin des temps qui fait irruption dans le cours du temps. L'originalité du présent de Jésus, c'est que le définitif et l'irréversible y sont déjà engagé. Et alors, au début du paragraphe qui suit, il dit « La résurrection de Jésus est en effet le symbole, c'est-à-dire le signe et la réalité de la résurrection générale promise à tous les hommes. » Et je lis enfin le début du dernier paragraphe « Jésus est ressuscité pour nous, sa résurrection accomplit définitivement le dessein de vie que le Dieu créateur avait conçu en faveur de l'homme. » Je disais tout à l'heure, la création, d'emblée, est ordonnée vers le salut. L'homme est créé pour avoir part à la vie de Dieu. Ce salut sera pleinement accompli à l'heure de la fin. Mais l'événement de la résurrection du Christ est déjà l'anticipation de cette fin. Deuxième étape dans cette réflexion sur le salut par rapport à la fin, eh bien, c'est une réflexion sur le combat que se livrent, selon la tradition biblique, l'amour et la mort. Je parle de combat, de conflit, en pensant au dénouement du Cantique des Cantiques dans l'Ancien Testament. Le Cantique des Cantiques, poème de l'amour de l'homme et de la femme, symbolisant lui-même la relation de Dieu et de l'humanité. Le Cantique des Cantiques se termine par cette formule énigmatique, c'est presque vers la fin, « L'amour est fort comme la mort ». Le texte ne dit pas « L'amour est plus fort que la mort ». Mais il dit au moins « L'amour est fort comme la mort ». C'est au moins à égalité. C'est tout à fait intéressant parce que ça veut dire que, à travers ce texte si important de l'Ancien Testament, c'est pas pour rien que les pères de l'Église ont donné une telle importance au Cantique des Cantiques, qui leur apparaissait comme, au fond, le poème qui prophétise l'accomplissement au sein même de la Première Alliance. Eh bien, c'est tout à fait intéressant de voir comment, selon le Cantique des Cantiques, il y a une sorte de duel qui est engagé et que la relation vécue par l'époux et l'épouse, le bien-aimé et la bien-aimée dont il est question dans ce poème du Cantique des Cantiques, est une relation d'une intensité telle qu'elle permet d'être au moins égalité avec les forces de la mort. Alors là-dessus, le Nouveau Testament permet d'aller plus loin. Précisément, grâce à cette révélation apportée par Jésus, et qui trouve un certain nombre d'expressions, quiconque perd sa vie la gagnera. Qui perd sa vie à cause de moi la gagnera. On peut trouver d'autres formules un peu différentes, mais qui reviennent toujours à celle-là. Évidemment, dans le langage de l'Évangile, enfin, perdre sa vie, c'est perdre sa vie par amour. Hein. Par amour de Christ, par amour d'autrui. Hein, voilà. Autrement dit, c'est une perte de soi qui est ordonnée à l'amour, qui est l'expression, le fruit de l'amour. Ce que ces paroles de Jésus invitent à comprendre, c'est que aimer en vérité, c'est aller jusqu'à se déposséder entièrement de soi. Aimer jusqu'au bout, c'est finalement se donner entièrement, donc c'est se perdre finalement pour autrui, c'est se perdre pour Dieu, c'est se perdre pour le Christ, c'est se perdre pour autrui, par amour de Dieu, par amour du Christ, par amour d'autrui. Mais ce que dit aussi l'enseignement de Jésus, ce que disent ces paroles de Jésus, c'est que se donner ainsi, aimer en vérité, c'est une forme de mort qui est inséparablement la vie. Quiconque perd sa vie, dans ce sens-là que je viens de rappeler, la gagne. Alors, à travers ces paroles de Jésus, nous comprenons que l'amour et la mort ont chance de ne plus être simplement à égalité, mais que l'amour l'emporte sur la mort. L'évangile de Jean en particulier met cela en valeur de façon extrêmement forte, puisque nous comprenons à travers cet évangile comment la mort du grain de blé tombé en terre est comme tel le chemin de sa fécondité prodigieuse, inouïe. Une vie plus forte que la mort. Et l'évangile de Jean va jusqu'à dire cela à propos de la croix du Christ, parce que ce que dit le Christ à travers ses paroles, hein, quiconque perd sa vie, la gagnera, etc., il est le premier à en vivre pleinement et de manière unique. Donc l'évangile de Jean va jusqu'à souligner cette victoire de la vie sur la mort, en n'hésitant pas à voir dans la croix elle-même l'expression paradoxale de la gloire. Ici, ce n'est plus simplement l'amour qui est fort comme la mort, mais c'est l'amour qui est plus fort que la mort. Ma vie, nul ne la prend, dit Jésus dans l'évangile de Jean, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Or, donner sa vie, dans ce sens-là, c'est vivre par-delà la mort. L'impression donnée à l'extérieur, c'est celle de la mort. Et c'est bien une réalité, c'est pas seulement une impression. On a vu Jésus mourir sur la croix. Mais la manière dont Jésus est mort sur la croix est, pour l'évangéliste, l'expression de sa véritable vie. On va dire, en essayant de donner le sens de cette identification, cette équation que l'évangéliste Jean pose entre la croix et la gloire, on pourrait dire Jésus vit de donner sa vie. Alors, il donne sa vie, donc il meurt. Et c'est ce que voient les gens au Golgotha. Jésus mort sur la croix. Mais Jésus, paradoxalement, vit de donner sa vie. Dans l'acte même, dans l'événement même par lequel il se donne, par amour de la multitude, dans cet événement même, il devient le vivant. Dieu, le Père, le ressuscite, lui donne de vivre par-delà l'événement historique de la mort, précisément parce que sa mort a été en quelque sorte d'avance vaincue par le sens qu'il lui a donné en faisant d'elle l'expression de son don. La deuxième étape, le conflit de l'amour et de la mort, et la manière dont, à hauteur de l'Évangile, ce conflit se trouve dénoué, alors déjà par l'enseignement de Jésus, enfin Jésus annonce déjà de quelle manière il peut être dénoué, quiconque perd sa vie la sauvera, etc. Mais surtout, le conflit est dénoué par le mystère pascal lui-même. Il ne suffit pas que Jésus ait dit « quiconque perd sa vie la sauvera, la gagnera ». Il faut que lui-même, il a fallu que lui-même vive cela. La scène, la passion, la croix. Mais à travers cela même, eh bien, il nous a été révélé comme le vivant, plus fort que la mort. Ce qui conduit à franchir une dernière étape, que j'illustrerai par le mot de saint Paul, qui parle de Dieu comme celui qui donne la vie aux morts et qui appelle le néant à l'existence. Romains 4, 17. L'être humain qui aime jusqu'au bout, dans l'expérience ordinaire qui est la nôtre, l'être humain qui aime jusqu'au bout peut faire l'expérience d'une force qui est au moins aussi forte que la mort. Mais pour aller plus loin, il faut avoir précisément l'assurance qu'une vie plus forte que la mort nous est donnée. Alors c'est déjà ce qui se passe pour Jésus, au bénéfice de Jésus, ressuscité d'entre les morts, mais c'est aussi le contenu de l'espérance qui est offerte à tous. L'assurance de cette vie plus forte que la mort, c'est l'assurance qui se fonde désormais sur la résurrection déjà advenue de Jésus, et c'est l'assurance qui est aussi, objet de la promesse, selon Paul, au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. C'est sur l'événement de la résurrection du Christ que se fonde l'espérance de la résurrection des morts. Révélation donc d'une vie plus forte que la mort, révélation d'une vie donnée par Dieu, déjà donnée en Jésus, mais appelée à se donner encore à tous ceux, toutes celles qui, comme le dit saint Paul volontiers, sont morts, seront morts dans le Christ. Et à travers cela, Dieu apparaît non pas seulement comme le Père qui ressuscite Jésus, le Père qui ressuscite son Fils dans l'Esprit, mais Dieu apparaît comme le Dieu recréateur au terme de l'histoire. Je disais tout à l'heure, quand on réfléchit sur le salut dans son rapport à l'origine, on est conduit à dire que la visée du salut est déjà présente au dessein de Dieu dès l'origine, la création en vue du salut. Mais j'ajoute maintenant que le salut affecte aussi la fin, dans la mesure où Dieu est promis, le contenu de la promesse, le contenu de l'espérance, eh bien c'est celle d'un Dieu recréateur au terme de l'histoire. Non seulement il a donné la vie, cette vie ordonnée à la perspective du salut, mais il offre au terme de l'histoire, il offre de revivre par-delà la mort. Alors ceci conduit à une toute dernière étape que j'intitule un mystère inscrit en Dieu même. Parce que nous avons vu comment le salut peut être pensé en amont, enfin du côté de l'origine, comment Dieu, dès l'origine, est habité en quelque sorte par cette visée d'un salut qui puisse être offert à l'humanité. Nous avons vu comment le salut affecte aussi la fin, comment le salut déjà inauguré par la résurrection du Christ est appelé à se déployer pleinement à l'heure de la résurrection, j'appelle la résurrection des morts, la résurrection au dernier jour. Et donc, cela conduit dans une toute dernière étape, très brève, à ouvrir un voile sur un mystère inscrit en Dieu même. Oui, le mystère, au fond, d'un salut qui est, de quelque manière, inscrit en Dieu même. Je dis de quelque manière, donc j'avance ici avec une prudence extrême, parce que bon, nous touchons quelque chose d'absolument intime, quasiment en secret, mais je pense que notre parcours nous y conduit. Oui, nous avons de bonnes raisons de réfléchir sur la manière dont le salut, en un certain sens, peut être pensé comme inscrit dans l'être même de Dieu. Dans quel sens? Ben, non pas, bien entendu, au sens du salut rédemption. Non pas, évidemment, au sens du salut entendu comme rédemption du péché. En Dieu, il n'y a pas de péché. Dieu est saint. Et donc, si on parle d'un salut inscrit dans l'être même de Dieu, ça ne peut évidemment pas être au sens que l'Occident latin a le plus généralement donné au terme de salut, c'est-à-dire un salut comme rédemption du péché. Alors, dans quel sens? Dans quel sens peut-on aller jusqu'à user de cette catégorie de salut quand on réfléchit sur l'être même de Dieu dans son éternité? Eh bien, nous avons vu que Dieu, de toute éternité, désire se communiquer à ce qui n'est pas lui, parce qu'il est radicalement amour, parce qu'il est radicalement dépossession de soi par amour d'autrui. Et donc, de ce point de vue, Dieu, de toute éternité, est en quelque sorte l'événement d'un don de soi, d'une dépossession de soi au bénéfice de la vie. Dire cela, mais ce que je touche devient abyssal, vous le conviendrez facilement, dire cela revient à dire que, en quelque manière, si je puis dire, quodam modo, comme auraient dit les médiévaux très prudents, d'une certaine façon, Dieu se sauve lui-même de toute éternité, Dieu se sauve lui-même de la possibilité du néant. Dieu n'est pas à penser comme un être statique. Dieu est à penser comme force, comme énergie, comme passage éternel de la potentialité à l'actualité, du pouvoir-être à l'être. Dieu est à penser comme étant éternellement celui qui est ce qu'il veut être et qui veut être ce qu'il est éternellement. En dehors de ça, il n'y a rien. Il n'y a que le néant. Donc Dieu, de toute éternité, se sauve parce qu'il veut se sauver de la possibilité du non-être. Et comme il est amour, cet éternel salut de soi-même, si je puis dire, se manifeste comme étant en Dieu même éternel don de soi pour l'autre. Éternellement, le Père vit pour le Fils vit pour le Père, l'Esprit vit pour le Père et le Fils, en même temps qu'il se reçoit du Père et du Fils. Dynamisme de la vie trinitaire qui est incessamment, éternellement, le choix de l'être contre le non-être, le choix de la vie contre la mort. Il faudrait, au fond, s'ouvrir au mystère de Dieu comme au mystère de l'événement, d'une éternelle victoire sur la possibilité du néant. Une éternelle victoire sur la possibilité du néant. Dès que le monde est créé, la volonté de néant ne tarde pas à surgir. Voilà. Puisque la Bible nous présente, au chapitre 3, la figure énigmatique du serpent. D'où vient-il, celui-là? avant Adam et Ève, il y a le serpent. Donc ça n'a pas tardé à venir. Il a suffi que Dieu crée le monde pour que la possibilité du non-être ou la possibilité du néant surgisse. Mais ça, c'est après la création. Le monde créé est bon. Le serpent n'est venu qu'après. Le serpent n'est pas originel. Il n'est pas loin de l'origine, mais il n'est pas originel. À l'origine, il n'y a que le bon, avec un B majuscule. Et donc, il faudrait s'ouvrir à Dieu comme événement d'une éternelle victoire, d'une possibilité, d'une éternelle victoire sur la possibilité du néant. Cet événement qu'est Dieu, cet événement qu'est Dieu et qui n'est autre que l'éternel surgissement de ce que nous appelons les trois personnes divines. Éternel surgissement des trois personnes divines, dont chacune d'elles reçoit des deux autres la possibilité de ce qui la constitue en propre. Le Père ne peut être éternellement Père que parce que éternellement il engendre un Fils. L'Esprit ne peut être éternellement l'Esprit de Dieu que parce que éternellement il procède du Père et du Fils. Donc, je vous laisse, si vous voulez, sur cette ouverture, pas une conclusion, mais une ouverture, vraiment. Il me semble que ce parcours sur le salut nous met finalement au seuil de ce qui est le plus abyssal qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire découvrir que tout ce que nous avons vu sur l'offre du salut à l'humanité se fonde radicalement sur la réalité de l'événement qu'est Dieu en lui-même et qui, comme tel, est une victoire éternelle sur la possibilité du mal et du néant. Une fois le monde créé, les choses ont pu prendre un autre cours. Et donc, le salut a dû prendre aussi d'autres connotations, y compris celles que l'Occident latin a tellement valorisées, la connotation du salut comme rédemption, comme libération du péché. Mais à l'origine, il n'en était pas ainsi. Éternellement, Dieu et cet événement de victoire sur la possibilité du néant, il est éternelle communication, communion, Dieu Trinité, tellement habité intrinsèquement par ce fondement de l'amour qui désire lui-même que d'autres que lui adviennent pour leur permettre un jour de participer à sa propre vie. Et alors, de l'origine, nous sommes renvoyés vers la fin, pleine manifestation du salut à la fin. Voilà. Alors, entre l'origine et la fin, il y a le milieu, du point de vue de l'histoire du salut, c'est ce qui s'inaugure avec Noël. Donc, bonne fête de Noël.